Oui, je me présente. Marc Brivillieri, maître de conférence à Paris 5, chercheur à l'école des études et enseignant à la Strat Design Collège, qui est une école de design à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris.
Et surtout sociologue. Enfin, d'abord.
Ouais, si on veut.
Pour les gens.
Même si c'est pas toujours évident. Désolé, il va y avoir aussi une rupture dans le registre narratif. Mais... Alors, il y a dans les analyses sociologiques touchant à l'usage et à la production de l'espace urbain, et notamment au plan d'une esthétique de la ville, des présupposés conséquents quant aux capacités affichées par les acteurs citadins. Capacités en tout genre, sensibles, conatives, cognitives, etc. Pour le dire autrement, on peut estimer que ces analyses sociologiques mettent en jeu une anthropologie capacitaire exigeante. C'est-à-dire que les citadins sont, dans l'environnement urbain, d'emblée, capables de pouvoir faire beaucoup de choses, et parfois même beaucoup de choses à la fois. L'anthropologie de la sociologie d'Erving Goffman est un exemple parmi d'autres. L'acteur goffmanien sait mieux que quiconque tenir les interactions, il intuitionne des prémices organisationnelles, il identifie des passages vers les coulisses et puis revient sur la scène, il pose des marqueurs dans la situation et par là, il fait du jeu, il joue et réussit en même temps à se tenir à distance lui-même du rôle qu'il joue. Il en découle une esthétique ordinaire de premier choix. Imaginez une scène quotidienne dans le métro. Là, un monticule formé par un journal sur un siège pour signifier qu'une place est réservée ou qu'une intimité est ici limitée. Ici, un geste subtil de tact qui me sauve de l'embarras. Là encore, un type ébauche une succession habile de gestes d'évitement pour ne pas avoir à toucher son voisin quand le métro prend de la vitesse. Ici, deux inconnus s'échangent des sourires fugitifs en évitant de planter leur regard dans l'œil de l'autre et tout en semblant parvenir à rester absorbé par la lecture d'un journal sans intérêt. Les quelques éléments que je voudrais apporter à la discussion repose donc sur ce point de départ. La pensée sociologique de la ville, et notamment de son esthétique, repose sur une telle anthropologie spécialement exigeante, dont on peut aussi estimer par ailleurs qu'elle est culturellement orientée et qu'elle reflète le fait même que les métropoles demandent beaucoup à leurs citadins, qu'elles les usent et qu'elles les épuisent en un sens. Mais, prenant pour point de départ cette anthropologie capacitaire exigeante, par quoi les citadins sont toujours déjà sensibles à un ensemble de phénomènes qu'ils génèrent ou subissent, on voit mal ce que demande en soi le sensible pour advenir. On n'aperçoit pas comment vient et sur quoi repose une capacité de pouvoir faire des expériences sensibles, puisqu'on la présuppose. Et par là, on ne peut pas non plus vraiment identifier vers quoi oriente ce socle capacitaire que présuppose l'agir sensible du citadin des grandes métropoles. Pourtant, il est bien clair que pour qui vient à la ville, l'enfant du citadin ou le migrant des campagnes, qu'il est question de devoir atteindre ce socle pour s'installer à demeure dans le milieu urbain, pour pouvoir goûter un sentiment de familiarité, donc de possession, appartenance avec ce milieu. Et enfin, pour pouvoir se rendre pleinement sensible aux ambiances urbaines, avant même, et d'ailleurs non sans lien, vous l'avez bien montré, que la grande question de la participation politique vienne à se poser. Je vais donc vous parler d'une enquête que j'ai conduite auprès du SAMU social de Paris. J'aurais pu d'ailleurs prendre en compte une autre enquête réalisée sur les tensions et les disputes de voisinage, où en fait l'épaisseur du sensible connote des réactions d'une vigueur toute spécifique, au point qu'une une manière de vivre étrangère génère de l'abject et de l'insupportable. Mais l'enquête sur le SAMU social a cela de plus intéressant, en ce qui concerne le propos d'aujourd'hui, que le travail opéré par les acteurs de cette institution s'effectue parfois sur des corps privés de sensibilité, et auprès desquels il est question de faire naître, pour reprendre la belle expression de Merleau-Ponty, l'étincelle du sensible, du sentir, pardon. Alors les maraudes nocturnes du SAMU social de Paris, que j'ai accompagnées et filmées pour l'enquête, s'effectuent auprès de sans-abri, afin de leur délivrer un soin d'urgence et de leur proposer éventuellement un hébergement en centre d'accueil de nuit. Mon objectif dans cette enquête a été de suivre en particulier des situations où le sans-abri se trouve être dans des états limites. Par état limite, j'entends précisément un état où la personne, le sans-abri, n'est pas en mesure de soutenir une interaction avec les intervenants, de percevoir, de comprendre, d'accepter qu'un soin lui soit apporté, qu'il n'est pas en mesure de lire les attendus d'un échange de routine qui normalement s'établit lors de ces passages. Bref, qu'il n'est pas en mesure de se maintenir au niveau requis par cette anthropologie capacitaire dont je vous parlais tout à l'heure. Les états limites sont aussi des moments de relative insensibilité ou de quasi-absolue non-sensibilité au monde alentour. J'ai notamment choisi de travailler sur trois cas de figure extrêmement fréquents au cours des maraudes du SAMU social. Trois cas qui peuvent d'ailleurs fort bien se recouper ou se superposer. L'état de profonde ébriété, l'état d'ensommeillement, les sans-abri pouvant être plongés dans un sommeil très lourd lorsque l'équipe du SAMU social arrive. Et enfin, l'état transi par le froid dans lequel sont plongés les sans-abri, notamment pendant les nuits glaciales de l'hiver. Deux problèmes liés se posent généralement à l'intervenant qui cherche à apporter une aide. Deux problèmes qui témoignent du fait que dans ces cas de figure, chacun de ces cas, un solde d'évidence, une dimension basale, s'est manifestement perdue. Or, ce solde qui nourrit les évidences naturelles, qui sont aussi des évidences matricielles, disons, or, c'est sur ce solde que l'on est, à partir de ce solde, que l'on est capable de recevoir des impressions. Puisqu'il est absent, on ne perçoit plus d'impression. On ne peut plus percevoir cette étincelle du sentir. On ne peut plus faire à proprement parler une véritable expérience. Et la psychiatrie de Blankenburg l'a bien montré en poussant cette analyse vers la dimension de la folie. Le dérobement du sol basal, nous dit-il, conduit à des états où la continuité biographique et la conscience intersubjective de la personne posent des problèmes et ouvrent donc les portes obscur de la schizophrénie. Il reste que de cet état d'insensibilité, les travailleurs sociaux doivent faire la matière d'un véritable travail. Un travail sur lequel s'articule une aide, et notamment une aide rationalisée, on y reviendra un peu après. C'est pour cela que le mouvement d'approche du sans-abri, le rapprochement, qui est aussi un réchauffement, un éveil, une tentative d'adhérence à la réalité, ce rapprochement met tout particulièrement en jeu une dimension du tact professionnel qui puise sa compétence dans des facultés à pressentir, à partager, puis à trouver des lieux de connivence avec les mondes de perception des sans-abri, monde de perception qu'on pourrait dire évanouissant. Pour cette raison, nous sommes conduits, nous autres sociologues, disons, à nous intéresser à la question du sensible et à nous poser des questions sur la nature même de ces mondes évanouissants. Qu'est-ce qu'un état d'ébriété avancée ? Tentons déjà de voir, de comprendre combien l'humeur de l'ivresse accuse une labilité. Comment son euphorie à l'ivrogne implique un enfermement dans l'actuel. comment il se comporte en s'alignant littéralement sur ses sensations présentes, manifestant comme une plus grande facilité au passage à l'acte. Qu'est-ce que le sommeil ? Question saugrenue pour un sociologue. Qu'est-ce que le sommeil et l'état cotonneux d'ensommeillement relatif ? Qu'est-ce qu'implique l'étroitesse du champ de perception au réveil, sa nature embuée, l'existence de perceptions molles qui en découlent ? Enfin, comment saisir l'engourdissement, l'ankylose de celui qui demeure frigorifié la nuit, dans la nuit ? Et par là, comment vient et qu'implique l'atténuation de ces sensations ? L'impression que le corps est bloqué et que, glacé, il semble se raidir sur lui-même. Ce qui peut nous intéresser ici tout particulièrement, c'est la manière dont ces intervenants du SAMU social vont produire chez le sans-abri un gonflement du sentir, une tension sensorielle, un espace où la sensation va pouvoir advenir et sortir le corps de son anonymat, de son insensibilité, comme je disais. En fait, il faudrait présenter les images pour bien le voir. Et on voit un sans-abri qui réagit plus ou moins faiblement à l'ambiance diffusée par l'équipe du SAMU social, les phares qui éclairent alentour, le gyrophare qui diffuse une couleur bleutée et produit des variations rythmiques d'ondes lumineuses, les blousons bleus marqués SAMU social, le geste coordonné et ritualisé de l'équipe de soignants qui semble envelopper plutôt qu'encercler le sans-abri, avec une précaution méticuleuse, toute particulière, pour ne pas sembler être intrusif. Car il ne s'agit pas, pour cette équipe du SAMU social, d'imposer d'entrée de jeu un espace de rationalité prédonné par une logique administrative et opérationnelle. Alors, la logique administrative et rationnelle du travailleur social, en l'occurrence, c'est proposer un consentement aux soins, identifier, informer, puis attendre une délibération de l'usager, l'orienter vers des formes contractuelles qui sont censées enclencher un projet d'insertion, etc. Eh bien non, on n'aborde pas directement le sans-abri par cette perspective rationaliste. L'état limite ne permet précisément pas d'accéder d'un coup à cette logique. Il demande d'abord de trouver une connivence avec les mondes de perception que j'ai vaguement tenté de vous décrire. Mais alors, toute la question repose sur la manière dont l'ambiance va se diffuser et gagner le contexte, dénouant l'insensible et faisant émerger du sensible. Eh bien, il faut alors être attentif à la manière dont les intervenants font passer auprès des usagers des courants d'humeur positive. Courants d'humeur positive qui, à leur manière, instaurent une première, ondulation réactive. Et cela dans la modulation rythmique impliquée par l'intervention. On sourit. On porte le sans-abri sans l'agripper, car l'agrippement du malportant fait surgir le gouffre de la vulnérabilité. On rassoit dignement le sans-abri, on titille son amour-propre pour durcir ses réactions, etc. Il y a là, à travers l'instauration de ces courants d'humeur positive, qui produisent des ondulations réactives et s'efforcent de toucher les plus insensibles, une vocation partagée avec l'esthétique. Elle aussi travaille de la matière corporelle insensible et cherche à ouvrir des mondes de perception, à faire vibrer des espaces présentiels, à faire surgir donc un espace où la sensation advient. Je vous le disais, pour instaurer l'étincelle du sensir, il faut produire une tension. Il faut être délogé en un sens. Et on sent venir cette question du dépaysement qui est au centre de la journée. Le surgissement de l'espace où la sensation advient, émane, le surgissement de l'espace, où la sensation advient, émane d'un tressaillement du corps à partir duquel se fait sentir l'attention. Ce tressaillement est un saisissement par lequel les choses finalement nous touchent. Comprendre la genèse de la sensation, et par exemple de la sensation esthétique, c'est donc en passer nécessairement par une pragmatique de la surprise, une pragmatique, pour reprendre les mots de Jean-François, de la brèche dans les routines perceptives. Plaçons-nous en condition d'écoute d'un vieux disque de jazz. J'adhère et trouve refuge dans la coulée mélodique qui semble comme exudée d'une harmonie musicale parfaite. Et puis soudain, j'entreaperçois un chœur, presque liturgique, comme une transe. Le chœur susurre quelques paroles qui touchent un point extrêmement sensible dans mon ventre. « A love supreme, a love supreme, grand Dieu, John Coltrane. » La surprise vient dans un retentissement corporel dont on peut dire qu'il diffuse une traînée émotive. Et il colore à ce moment-là à la fois la durée et l'humeur. Et il oriente l'orchestration corporelle de l'émotion. Mais là, précisément, au moment où je suis surpris, il n'y a plus l'évidence naturelle du sentir où je me laissais aller dans la coulée mélodique, mais bien échappée de celle-ci. Une échappée troublante qui, un temps, interrompt le délice du se laisser aller. Une échappée, enfin, qui positionne le corps de telle sorte qu'il appréhende la qualité des choses du monde. Peut-être déjà sous l'angle du bien ou du mal, du beau ou du laid. Alors, et pour finir, je voudrais ajouter une chose. Une fonction essentielle du travail social réalisé par les équipes du SAMU social, travail réalisé hors les murs de l'institution, consiste à aller chercher les sans-abri là où ils se terrent dans la ville. Un enjeu fondamental de ce travail consiste à introduire un délogé, une tension sensible, un trouble dans le monde passablement insensible duquel, chez certains, ne ressort plus aucune forme notoire de motivation, du moins en direction du monde institutionnel de l'assistance sociale qu'ils ont déserté depuis longtemps. Dire cela ne consiste pas à, disons, esthétiser le geste d'aide apporté, mais à remarquer que l'enjeu spécifique que je viens de poser repose bel et bien sur l'ouverture tangible d'un monde de perception et sa tonalisation par une certaine atmosphère institutionnelle, notoirement normative, précisément celle de l'assistance publique. Que le sans-abri soit impressionné par cette atmosphère est l'élément le plus apparent de cette démarche. Mais l'ouverture de l'espace rationalisé du travail social ne se fait pas sans compter, ou plutôt sans devoir jouer, avec la texture mouvante de la ville qui constitue l'élément majeur de l'arrière-fond de cette activité professionnelle. C'est donc un travail de composition que demande l'intervention d'urgence auprès des sans-abri. Et l'empiètement des atmosphères du monde institutionnel dans l'ambiance urbaine et vice-versa n'est pas sans susciter une potentialité foisonnante des sources du sentir. Et donc, sur la ligne de crête où les mondes sensibles sont contigus, et tout particulièrement sur cette limite étroite, l'étranger et son étrangeté paraissent tout proches. Et par leur proximité, font frissonner, tressaillir le corps, et convoque l'épaisseur tensorielle, du sensible. Voilà le point où l'on rejoint une quête éminente de l'esthétique. Mais voilà aussi que, sur le fond, nous avons, pour ainsi dire, donné une voie de légitimation à une forme de désinstitutionnalisation du travail social. Nous l'avons fait, ferai-je remarquer, sans en passer par une énième critique de l'enfermement disciplinaire. Mais, j'en suis certain, il n'y a pas lieu d'avancer par là une pensée irénique. Et je pense qu'il y a aussi matière à relever le défi de la critique, cette fois à l'épreuve des formes d'intervention qui, précisément, prennent pour socle le sol de la ville. Voilà. J'ai fait trop vite.